Bonjour et bienvenue à cette émission de conférences pectorales. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Marc Brochu est interviewé par René Manta au sujet de questions par rapport à Israël et au ministère de conférences pectorales. Bonne écoute!
Alors, bonjour, pasteur Jean-Marc. Ça fait déjà plus de 20 ans que l'on se connaît. Et puis, au cours de cette période, vous avez écrit plusieurs livres, documents, des plaquettes, des fascicules. En fait, plusieurs vidéos même, donné de nombreuses conférences au sujet du peuple d'Israël, avec des répliques d'objets à caractère messianique, et j'en passe, évidemment. Pourrions-nous considérer votre ministère, Jean-Marc, comme étant messianique?
Oui, le ministère de conférences pectorales, d'abord, en parlant de ce mot-là, messianique, puis en passant, René, ne te gêne pas si tu veux me tutoyer, comme je disais, sois bien à l'aise. Alors, le mot messianique, c'est relatif à la venue d'un messie, au messianisme. Et le messianisme, sur le plan religieux, c'est la croyance dans ce messie, un sauveur, un rédempteur. Les religions ont souvent un concept de messie, par exemple le Mahdi dans l'islam, par exemple aussi l'avatar Kalki hindou ou le Maitreya bouddhiste. Dans ta question, toi, tu le rattaches au peuple d'Israël. Et c'est exact, car c'est lui le véritable messie qui avait été annoncé et qui est venu à travers le judéo-christianisme. Le judaïsme l'annonçait dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, ce que les Juifs appellent le Tanakh.
Pour Tanakh.
On appelle ça l'Ancien Testament. Et sa venue est bien écrite aussi dans le Nouveau Testament. Bien que les Juifs ne l'aient pas reconnu, sachant qu'ils allaient rejeter son message, bien lui, le Messie, avait prévu que son évangile parvienne à tous, à toutes les nations, de toute façon. Et voici comment l'a exprimé l'apôtre Paul à travers l'Épître aux Romains. Il dit dans le chapitre 11 de son Épître, verset 25, « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob des impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. » Je continue la lecture, en fait, du texte là, jusqu'au verset 31 dans Romains 11. « En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, donc à cause des païens, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont ennemis à cause de leur père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. » Ça, c'est le grand plan de Dieu. Alors la réponse est oui, dans ce sens, notre ministère est messianique. Le dernier des cinq points du résumé de mission de conférence pectorale, on a cinq points de résumé de mission. Le dernier des cinq points dit « Le Messie révélé à toutes les nations ». Alors, il faut que nous, amis chrétiens, comprenions que nous ne prêchons pas une nouvelle doctrine, ni une nouvelle secte, mais que notre message, qui était à l'origine juif, doit retrouver pour les Juifs d'aujourd'hui sa vraie valeur biblique, afin que la Brit Hadasha,
le Nouveau Testament,
la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, ne soit plus le livre étranger, le livre des goïms, des païens pour les Juifs, pour combler le fossé et aider le peuple juif à retrouver son livre. Il faut qu'on emploie des consonances hébraïques pour eux autres, qui ont été écartées au profit des mots grecs, par exemple, qui pour un juif, des mots grecs, ça ne signifie pas grand-chose. C'est pourquoi, dans plusieurs milieux juifs, ils veulent être appelés eux-mêmes des juifs messianiques, par exemple. En hébreu, « Yehudim Meshihim ». Chrétien, c'est la traduction du mot hébreu, hein, désignant à Jérusalem les disciples du Seigneur. Chrétien vient de Christ, ça c'est grec, bien sûr, mais si tu mets en hébreu le mot. Alors là, la proximité avec les juifs. Alors, n'oublions pas, le mot vient de Christ, donc, comme je viens de dire, Messie. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'il y ait des Juifs qui veulent être appelés Juifs messianiques? Et pourquoi leur communauté ne s'appellerait-elle pas Assemblée messianique? Ils ne font, en faisant ça, que revenir aux sources bibliques en réalité.
Oui, mais disons, c'est bon. Parlons maintenant d'Israël, Israël mondain et séculier qui vivent selon les normes du monde. Nous autres, étant chrétiens, on dit qu'ils vivent dans le péché. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans le plan de Dieu?
Bon, c'est une question importante. Hein? La régénération du peuple d'Israël ou sa nouvelle naissance est annoncée, elle est prophétisée dans les passages, par exemple, dans Jérémie 31, verset 1er, verset 31 à 34, Ézéchiel 36, verset 22 à 27. Éventuellement, on va voir ces versets-là sur l'écran. Lorsqu'on regarde, c'est vrai, actuellement Israël, qui n'est pas sauvé, qui n'est pas régénéré, mais dans un état de rébellion ou ne servant pas son Messie, nous comprenons que cette promesse reste encore à s'accomplir. Bien qu'Israël, en Israël, il y a un pourcentage croissant de Juifs messianiques, la majorité n'a pas reçu un cœur nouveau. La nation n'a pas aujourd'hui un cœur unifié qui craint le Seigneur. En fait, les visiteurs sont souvent étonnés lorsqu'ils vont sur la Terre Sainte pour la première fois, de la trouver si semblable aux autres nations dans son manque de sainteté. On pourrait être surpris de se rendre là-bas et de trouver, de voir des choses là, vraiment. Par exemple, tu vas aller à Tel Aviv un soir, tu vas prendre un taxi, tu vas aller dans la ville visiter et tu vas être entouré de discothèques, de clubs, de bandes avec une jeunesse addictive de la drogue et des prostitutions, des choses semblables. Ce qu'on appelle une terre sainte, là, ça ne ressemble plus tellement à cela. Hein. Alors, toutefois, et bon, la proclamation de l'homosexualité, etc., etc., on pourrait en mettre pas mal de choses. Toutefois, dans la Nouvelle Alliance, la promesse du pays est jointe avec le fait d'avoir un nouveau cœur. Alors, l'Alliance abrahamique et la Nouvelle convergent toujours ensemble ou sont en processus, on pourrait dire ça comme ça, pour le plan de rédemption de Dieu pour Israël. Le prophète Ézéchiel explique que Dieu va leur donner un nouvel esprit et un nouveau cœur, Ézéchiel 11, verset 19-20. C'est bien à la maison d'Israël que Dieu dit qu'il va les purifier et les régénérer en leur donnant leur pays. Donc, je mets la référence dans Ézéchiel 36. Même si des étapes semblent encore à venir, on ne doit pas cesser de prier pour eux, ça c'est sûr.
OK. Alors maintenant, considérant, Jean-Marc, la compréhension biblique que l'on a du plan de Dieu, quel est le rôle des chrétiens par rapport à Israël?
Le lien chrétien avec Israël, je dirais, c'est particulièrement fort et important. Les chrétiens, s'ils ne le font pas, devraient chérir autant l'Ancien que le Nouveau Testament dans la Bible. Le Tanakh pour les Juifs, si on va dans une synagogue juive, c'est ce qu'ils lisent, c'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils étudient, c'est ce qu'ils proclament. Tous les écrits de l'Ancien Testament, de la Genèse, Bereshit, jusqu'à Malachi, le dernier prophète, tous ces écrits-là, bien sûr avec des allusions talmudiques et des commentaires, tout ça, juifs dans leur monde à eux, mais le lien avec Israël, les chrétiens, ça doit être fort, et on doit chérir les deux testaments, dans lesquels Dieu a fait de nombreuses promesses au peuple juif, dont certaines d'ailleurs sont toujours en voie, comme on vient de le voir, d'accomplissement. Et il a gracieusement inclus l'Église dans ses alliances avec Israël. Hein? Aujourd'hui encore, le judaïsme est la racine qui soutient le christianisme. Et les chrétiens doivent être reconnaissants devant leurs voisins et amis juifs pour leur contribution à la foi chrétienne. Les chrétiens qui soutiennent Israël le font parce qu'ils reconnaissent cette vérité. Le judaïsme n'a pas pris fin avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Là. Il n'a pas non plus été surplanté par la naissance du christianisme. Sans Jésus, qui était un rabbin juif, ni les apôtres qui étaient des disciples juifs de Jésus, ni les écrits que l'Esprit de Dieu a inspirés et fait écrire à travers des hommes juifs, ce qui a constitué la Bible, sans tout cela, les chrétiens n'auraient aucune fondation pour leur foi. Les chrétiens qui soutiennent Israël reconnaissent qu'ils ont une dette de rendre hommage au peuple juif pour leur contribution qui a donné naissance à la foi chrétienne. Indépendamment de la nationalité ou du groupe de personnes, chaque chrétien doit ses remerciements au peuple juif pour leur héritage spirituel. Les chrétiens qui soutiennent Israël reconnaissent les péchés du passé, hein, y compris la complicité de l'Église à des et des chrétiens pendant des siècles de persécution des juifs, et cela même au nom du Christ. Au lieu de pleurer simplement le passé, les chrétiens qui soutiennent Israël peuvent faire preuve d'une véritable compassion, par exemple, en soutenant l'État d'Israël et en voulant le bien du peuple juif d'une façon ou d'une autre. Voici des raisons bibliques qui aident à comprendre notre rôle en faveur de la nation d'Israël. Premièrement, il faut savoir que Dieu a fait une alliance avec Abraham, comme quoi il donnerait au peuple juif le pays d'Israël. C'est une alliance perpétuelle dans Genèse 12. Il y a d'autres références, bien sûr, dans l'Ancien Testament, plusieurs. Deuxièmement, Dieu a promis de bénir ceux qui béniraient Israël et de maudire ceux qui le maudiraient, Genèse 12, 3. Troisièmement, Dieu hait l'antisémitisme. Vous avez des références qui sont là. La parole de Dieu dit de consoler son peuple, quatrièmement. Cinquièmement, Dieu n'a pas révoqué ses dons et son appel à Israël, comme mentionné en réponse à la première question. Sixièmement, Dieu a préservé Israël à travers les siècles. Septièmement, Dieu a mis son nom à Jérusalem. Huitièmement, Dieu a établi Jérusalem physique. Huitièmement, Dieu a établi des intercesseurs pour prier pour le peuple d'Israël. Alors, avec tous ces points-là, même si les promesses de Dieu à Abraham et à ses descendants, le peuple juif, sont très claires dans les Écritures, il y a encore beaucoup de personnes qui rejettent ces enseignements-là. Ils croient que l'Église a remplacé Israël en tant que ceux qui hériteront ce que Dieu promet. C'est ce qu'on appelle la fameuse théologie de remplacement. Au lieu de ce que nous lisons dans Romains 11, c'est-à-dire que l'Église a plutôt été greffée sur Israël, à Israël, ils enseignent qu'il n'y a plus aucune signification spirituelle pour le peuple juif. La terre d'Israël ou la nation d'Israël aujourd'hui est que Dieu a entièrement retiré ses promesses à Israël. La théologie de remplacement, ce n'est pas biblique et en fait, c'est extrêmement nuisible. Dans ses promesses, Dieu souligne la pérennité de la nation, comme quoi elle va durer. Ainsi, dans Jérémie 31, verset 35-36, « Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ses lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » Donc, ça n'a pas cessé ces lois-là, ça ne cessera pas, et la race d'Israël va toujours demeurer avec les promesses qui lui ont été faites de la part de Dieu. Ce passage avec d'autres nous apprend que Dieu est infaillible dans sa fidélité, n'a jamais révoqué son alliance avec le peuple juif, même face à leur désobéissance. Mais il a confirmé que son alliance est toujours en place. Parce que ses promesses ne sont pas encore complètement même accomplies, il reste un espoir et un futur pour Israël et le peuple juif. Nous pouvons être sûrs que notre Dieu est fidèle même à toutes les générations.
Ça m'amène à une autre question, Jean-Marc. Ça concerne l'Alia. C'est quoi l'Alia, puis pourquoi l'Alia du peuple juif est-il si important pour toute l'humanité?
Oui, hein, c'est un plan vraiment qui comprend les Juifs et les non-Juifs.
C'est déjà la fin de l'émission et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Pour info, vous pouvez consulter notre site Internet à www.conférencespectorale.org. Vous pouvez également voir notre local d'exposition de maquettes à arcexposition.wordpress.com. Et vous pouvez joindre Jean-Marc à l'adresse courriel pectoraliat@commercial.gmail.com. À bientôt!